le magazine citoyen avec la province Sud, une province citoyenne.
La province Sud, agir pour l'avenir.
Et ce midi, on va parler d'art dans ce magazine citoyen sur l'antenne de Radio Rythme Bleu. On va plonger dans l'univers de nos invités. Nous sommes en compagnie de Cubi, artiste aux multiples talents, je devrais dire multiples casquettes aujourd'hui également, puisqu'il a sa casquette dans le studio, graffeur, tatoueur, rappeur, bonjour.
Bonjour Nicolas.
J'en passe peut-être d'ailleurs, des casquettes.
Non, je pense que c'est déjà pas mal.
On est aussi avec Maxime Rouault, peintre qui gère la société 22 bis, c'est bien ça ?
Tout à fait.
Qui propose des reproductions aussi d'œuvres d'art, on en parlera, oui. Bonjour. Nous sommes avec Charlotte Mollet, artiste plasticienne, peintre et illustratrice également, bonjour.
Bonjour.
Et Jean Rerève, qui est photographe et qui propose également ses photographies du lagon sur des paréos.
Bonjour. Bonjour à tous.
Merci d'être avec nous ce midi pour évoquer vos pratiques artistiques, vos actualités aussi, et le marché de l'art calédonien et peut-être l'évolution aussi de votre modèle économique et de vos pratiques. Avant cela, peut-être commencer par évoquer justement vos univers les uns les autres pour qu'on apprenne peut-être un petit peu plus à vous découvrir. C'est difficile de parler d'art à la radio, mais essayez d'évoquer un petit peu vos univers. Qui veut commencer ?
Je veux bien. Du coup, merci pour l'invitation, pour commencer. Moi, je suis arrivé en Calédonie, ça fait à peu près 8 ans maintenant. J'avais pas forcément l'intention de rester, mais on va dire que le destin m'a pris par la main. Et du coup, j'ai pu commencer à faire des expositions sur le territoire avec l'ouverture de l'Art Factory. C'était il y a 4 ans. Ça a été un petit peu l'expo qui m'a lancé, on va dire, sur Nouméa.
Est-ce que vous étiez déjà artiste et vous aviez déjà exposé petit peu partout ?
Alors, à l'époque, je travaillais dans l'hôtellerie. Donc, j'avais pu exposer à Saint-Barth, j'avais pu exposer à Courchevel, à Paris. Et au travers de mes voyages pour le travail, j'avais pu exposer à Tahiti un petit peu, au Brando, sur l'atoll de Malan-de-Brando, où je travaillais. Et où j'ai pu retourner, d'ailleurs, il y a 4 ans, pour le sommet sur le climat. Donc, j'ai été invité... à participer à bord du Gauguin, à exposer mes œuvres et après, par la suite, à aller à Tetiaroa pour offrir un tableau que j'ai offert à Tetiaroa Society. Donc, c'est les scientifiques de l'atoll qui militent un petit peu pour la préservation de l'environnement. Et puis, suite à ces expos, j'ai arrêté la restauration, j'ai monté ma société 22 bis, donc avec Marion Chabot, ma chérie. Et on s'est lancé, on va dire, dans l'impression par sublimation. Parce que je m'étais rendu compte en faisant des live paintings à la Bodega, à l'île aux Canards et dans pas mal de soirées à Nouméa, que finalement, il y avait beaucoup de gens qui auraient aimé avoir mon travail, mais qui n'avaient pas forcément les moyens. Et l'idée, c'était de pouvoir rendre mon art accessible au plus grand nombre. Et comme je travaille sur des panneaux qui font 2,40 m par 1,20 m et que je fais tout au feutre ou en dorure, donc ça prend des centaines d'heures parfois, et bien, du coup, cette imprimante m'a permis d'être indépendant dans ma création, de vivre de mon art, d'arrêter la restauration et puis par la suite après de m'établir à Païta où on a notre doc et notre showroom. Et puis l'année dernière pendant les émeutes on avait une boutique où on exposait pas mal d'artistes également et ça nous a permis un petit peu de se retrouver entre artistes pendant cette période difficile et de donner la place aussi à l'association Arcane, à pas mal d'artistes du territoire, Marion Dionnet et j'en passe. Et puis et finalement, ça a permis de structurer un réseau autour de l'impression parce que les autres artistes ont aussi compris qu'ils pouvaient utiliser nos machines pour faire leurs propres reproductions. Et donc, on a aujourd'hui un portefeuille d'à peu près 30 artistes avec qui on travaille assez régulièrement, donc des amateurs, des plus confirmés, on va dire. Et voilà, c'est hyper épanouissant. Il n'y a pas un jour où je regrette, donc je suis très content.
Bon, on va revenir sur tout cela. Charlotte Mollet, peut-être décrire un petit peu votre univers. C'est assez spécifique.
Oui, c'est sûr. À décrire, c'est pas forcément évident, mais on va faire au mieux. Moi, je suis arrivée il y a 8 ans, un peu plus de 8 ans maintenant, donc à peu près.
Dans le même avion.
Voilà, c'est ça. Peut-être, hein, ça on ne sait pas. Voilà, je viens initialement de région parisienne, donc sacré changement, mais en même temps, voilà, je cherchais à vivre dans un milieu plus insulaire, donc voilà, la Calédonie, parfait. Et c'est vrai que tout ce qui était milieu marin, enfin l'environnement m'intéressait déjà beaucoup depuis un certain temps. et ça a permis de découvrir les paysages et puis la faune et la flore locale et toute la richesse. Ça m'a permis de développer ma pratique artistique qui était pas... J'ai connu une coupure assez conséquente dans mon milieu artistique en région parisienne. J'ai eu un petit burn-out et j'ai connu les événements, les attentats assez près de 2015. Donc c'est ce qui a fait que je suis partie aussi de Paris. Et en fait, en arrivant ici, j'ai recommencé à dessiner, à peindre comme ça. Enfin, ça, je pense qu'il y a eu quelque chose de thérapeutique aussi dans cette démarche-là. Et en fait, c'est la vie a fait que me mettre des opportunités sur le chemin. Et à partir du moment où j'ai recommencé à dessiner, c'est là où il y a des expos qui sont mis en place, etc. Et ça m'a confortée dans le fait que c'était vraiment quelque chose auquel je tenais. Et puis me reconnecter à ça, c'était vraiment essentiel.
Et inspirée de la Nouvelle-Calédonie ?
Et oui, complètement, ouais. Et puis le lien, humain et de l'environnement, c'était quelque chose que je cherchais, je pense, viscéralement, cette recherche d'union entre l'homme et l'environnement, que je trouve ici, en tout cas, même culturellement parlant. Et donc, c'est vrai que les créations sont très orientées, s'articulent vraiment autour de l'homme et de l'environnement, mais l'homme d'un point de vue plus au niveau de l'essence, donc d'un point de vue biologique, vraiment, de resituer l'homme vraiment dans son état animal, on va dire. Donc avec des démarches très scientifiques, biologiques, beaucoup de recherches à ce niveau-là. Et donc forcément, dans les dessins, ça donne une sorte d'hybridation, de fusion entre des éléments de l'anatomie humaine et des éléments issus de la botanique ou environnement marin, maritime ou floral. Voilà, ça dépend, il y a un peu de tout.
On a des pratiques vraiment différentes autour de ce plateau. Voilà. On a des inspirations différentes. On a peut-être plus un street artiste avec nous, avec Cubi. C'est complètement différent.
Je pense qu'il y a pas. C'est juste la démarche qui est différente. Après, la finalité reste la même. Hein, c'est de s'exprimer et de pouvoir exprimer notre sensibilité au travers de différents arts. Moi, j'ai commencé très très jeune parce que aujourd'hui, je l'ai vécu un peu comme une malédiction, mais aujourd'hui, je comprends que c'est une grande bénédiction. Mes parents se sont séparés quand j'étais très jeune. J'étais à la limite d'être un enfant autiste. Je m'enfermais pendant des heures dans ma chambre à dessiner. C'est ce qui m'a aidé psychologiquement à passer ça. J'habitais dans un quartier qui n'était pas forcément très safe. Donc, ma mère préférait me voir dans ma chambre à dessiner clairement que de me voir traîner en bas du quartier. Et puis le graffiti est arrivé un peu de manière naturelle parce que c'était dans les années 90 où c'était... Le rap était là, Benebi, Ayam, tout ça qui commençait à exploser. Donc j'ai été dans cette génération-là et j'en suis tellement heureux. C'est ce qui m'a inspiré. J'ai commencé à écrire très jeune. J'ai écrit mes premiers poèmes en sixième. J'écrivais énormément, pareil, de manière thérapeutique. Je dessinais beaucoup et le graphe est arrivé. Je devais avoir 11 ans, 12 ans et arriver dans ma vie un peu comme ça, quoi. On a commencé avec des bombes de Monsieur Bricolage, faire beaucoup de choses dans la rue, beaucoup de vandales, ce qu'on appelle, sans autorisation. Et puis de fil en aiguille, on commence à faire une toile un jour, et puis on commence à faire une décoration, et puis sans s'en rendre compte, ça devient un métier. J'avais vraiment rien calculé. C'était vraiment que de la passion, parce que de toute façon, nous, quand on a commencé le graph et le rap, et dans les années 90, il n'y avait pas de business plan possible, il n'y avait pas de business du tout autour de tout ça. Donc on a vraiment fait les choses avec le cœur, avec passion, et c'est un art qui m'a vraiment appris à faire les choses sans avoir un intérêt derrière. Et c'est peut-être la meilleure chose qui m'est arrivée. Et je remercie beaucoup cet art et cette culture pour ça, parce que il y avait rien à y gagner. Quand on était jeune, je ne conseille à personne de le faire, mais on fraudait le bus, on allait voler des bombes pour aller faire un graph illégal.
On ne va vraiment pas le conseiller, oui, effectivement. Voilà.
Donc c'était certes pas très droit, mais ça avait le mérite d'être complètement dénué d'intérêt. On n'avait rien à vendre, on n'avait rien, on voulait juste vivre, se sentir vivant.
Est-ce que quand ça devient un métier un peu plus tard, est-ce qu'on a toujours le même rapport à sa pratique ? Est-ce qu'on a toujours la même passion ou est-ce qu'on se limite ? Est-ce que ça change la façon de voir les choses ?
Très sincèrement, il y a beaucoup de gens à qui j'ai essayé d'expliquer cette addiction en fait, au graphe et encore plus au graphe illégal. Il faut comprendre qu'on est des grands enfants. C'est-à-dire qu'on fait quelque chose qui n'est pas vraiment légal, mais qui en même temps n'est pas un vol ou une agression physique ou autre. Donc il y a un peu un truc où on n'a pas une culpabilité non plus grandissante, et en même temps il y a ce jeu du chat et de la souris qui est vraiment très grisant, pour ne pas mentir. Et c'est vrai que moi, c'est là où je trouve ma source essentielle de ma pratique, c'est dans la rue, la nuit, marcher, faire des graphes. Et bien sûr que maintenant, en étant professionnel en Calédonie, qui plus est, je ne me permets pas de le faire en Calédonie, mais quand je pars à l'étranger, il se peut que je balade un petit peu la nuit et que certaines bombes peuvent traîner, on va dire.
Alors qu'ici, vous trouvez des spots pour pouvoir le faire. Exactement. Avec des autorisations. Et là, on est vraiment sur un geste artistique qui est différent.
C'est ça. Et c'est une autre démarche. C'est complètement différent. Et puis, j'ai aussi une éducation qui fait que j'essaye de rester le plus rationnel et le plus éthique possible dans mes pratiques, dans peu importe ce que je fais dans ma vie. Et j'ai beaucoup d'ateliers avec le jeune public en Calédonie. Donc, je peux pas. Je leur raconte certaines anecdotes en leur disant que c'est pas un bon exemple. Hein, c'est juste, j'en suis pas fier. J'ai fait ça à l'époque parce que j'avais pas de moyens et autres. Mais ça m'a mené au but que je voulais. Mais maintenant, voilà, je le fais plus parce que j'ai compris que ça sert à rien. Je peux pas faire des ateliers avec les jeunes d'un côté pour de la prévention anti-graffiti et le week-end aller prendre les bombes de l'atelier. Il y a un genre de truc
qui
est logique.
Ça fonctionne pas.
Non, il y a un truc qui est logique qui marche pas dans mon cerveau en tout cas. Donc oui, ça a forcément changé ma pratique de professionnaliser mon art.
On va reparler un petit peu de vos actualités un petit peu plus tard. Genre rêve, on est sur une autre pratique, rien à voir. On est sur de la photographie sous-marine, on est dans le lagon et on montre aussi la beauté du territoire avec un œil d'artiste.
Oui, qui s'est forgé petit à petit. L'origine, c'est... Alors, je suis arrivé en 1971, il y a beaucoup plus longtemps, en Calédonie. J'étais tellement petit que j'ai aucun souvenir avant 1971. Donc, moi, mon pays, c'est ici. Puis je suis vraiment amoureux de ce pays. J'ai grandi, j'ai tout de suite mis un masque, un tuba. À l'époque, il y avait un bateau qui s'appelait les Folies Bergères et puis qui emmenait les gens au phare. Et mon oncle conduisait le bateau. Et il m'a fait découvrir un petit peu ce monde sous-marin. J'ai grandi, voilà, comme tout le monde, au lycée La Pérouse. À 16 ans, j'étais dans les bons avant-derniers ou derniers de la classe. Et là, mon père a décidé, a dit, ben, je voudrais partir passer ma retraite en France. Donc à 16 ans, en ayant connu de ce que j'ai dans la tête que la Calédonie, je suis parti en France. Et je suis parti pour 18 ans en France. Et les 18 ans, elles m'ont permis de me mettre à travailler. Et elles m'ont permis aussi l'ouverture d'esprit d'aller voir ailleurs et de se dire que quand on vit toujours dans le même endroit, on croit qu'on a la vérité, la science infuse et la vérité. Et voilà, ça a été une ouverture. Ça a été aussi, je me suis mis à faire des études. Et puis plus je montais dans les études, plus je montais dans... Et j'ai terminé en école d'ingénieur, major de promotion. Mais mon rêve, il n'était pas là. Donc j'ai fait quand même ma première expérience en France à diriger des unités de production, donc bien loin de l'art, si on peut dire. Et mon rêve, c'était de revenir. Donc avec ma femme, je lui ai fait connaître la Calédonie en venant en vacances. Dès que j'ai eu de l'argent, on est venu en vacances. Et puis j'ai eu la chance qu'elle veuille bien accepter de venir essayer de vivre ici. On est arrivé en l'an 2000, donc ici. Et en l'an 2000, j'ai eu cette sensation de dire j'avais besoin comme de rattraper le temps perdu. Et après, du coup, moi aussi, en tant qu'ingénieur, j'ai eu des postes à responsabilité, des postes de directeur d'usine, de chef de production. Mais le début, c'était vraiment, il fallait que j'aille plonger et que je rattrape tout ce que j'avais loupé. Mmh. Et puis, avec un peu comme dans l'univers de Charlotte, c'est un monde fascinant, c'est un monde incroyable, c'est un autre monde. Et donc les années, les dernières années, pour en venir plus près, j'ai eu un boulot avec de plus en plus de responsabilités où j'avais du mal à m'en sortir. Et mon téléphone sonnait la nuit, hein, pendant que je dormais, des fois il sonnait, il y avait des pannes, il fallait partir à l'usine, gérer du personnel, avoir des actionnaires au-dessus, enfin j'avais un peu la totale. Et ce monde, il m'a sauvé aussi, parce que j'allais dans ce monde et là, il n'y a plus de téléphone, il n'y a plus de voiture. Quand on arrive sur Terre, eh ben, il n'y a que des chromosomes et puis un message génétique. Et c'était ça. Et il m'a sauvé. Et donc, voilà, pour accélérer un petit peu, j'ai participé après au Festival de l'image sous-marine pour le côté, voilà, la beauté et puis montrer. J'ai passé des niveaux de photographe avec des gens qui sont venus de France jusqu'à être instructeur photo sous-marine. Et un jour, je me souviendrai toujours, c'était en 2018, ma fille, elle m'a dit, papa, t'es trop stressé, quitte ton boulot, t'inquiète pas pour nous, on va se débrouiller. Et j'ai eu cette chance, voilà, d'avoir la famille derrière moi. Et en même temps, après le festival, j'ai fait deux expos. Et après la deuxième expo, j'ai un directeur de galerie d'art qui m'a appelé et qui a dit « je voudrais qu'on développe des produits ensemble ». Et c'est comme ça que le côté est venu de poser ces images sur, sur de la soie. Donc il y a 10 ans, on commençait les premières collections en soie naturelle, qui a un côté prestigieux, et c'est un côté que mérite le Lagon.
Alors, le temps passe très vite, effectivement, on est sur des domaines très passionnants, avec des passionnés autour de ce plateau. Il faut aller à la rencontre aussi de son public, de ses clients. Vous allez tous exposer, notamment, on parlait tout à l'heure de Paris, vous allez avoir des expositions en fin d'année et début d'année prochaine aussi, qui sont très importantes pour vous, puisque ce sont des expositions prestigieuses. On va parler un petit peu de vos actualités. D'abord, pour le mois de décembre, Charlotte Mollet, vous avez une exposition en vue.
Oui, tout à fait. C'est le Salon des Beaux-Arts, voilà, qui va se dérouler du 10 au 14 décembre. Ça approche. Départ là ce jeudi. Je suis super contente parce que voilà, la sélection était rude et le dossier aussi bien compliqué. Mmh. Mais je vais pouvoir rencontrer aussi des artistes qui ont du bon niveau, voilà, de ce que j'ai pu voir. Donc ça va être passionnant. Mmh. Voilà, et puis bah, comme Maxime, Art Capital, effectivement, de prévu plus tard en février.
Février, ouais.
Voilà, et qui se déroulera au Grand Palais. Là, le Salon des Beaux-Arts se déroule au réfectoire des Cordeliers. C'est un bâtiment du XVIe siècle. C'est comme une aire de petite chapelle.
C'est prestigieux de rentrer dans ces lieux quand même. Quand on parle du Grand Palais, on est sur des lieux d'exposition incroyables.
En fait, c'est autant prestigieux qu'historique, puisque le Salon des artistes français, il existe depuis près de 300 ans. Et le Salon d'automne auquel j'ai pu participer sur la place Concorde en bas des Champs-Élysées en novembre, enfin, c'était début novembre. Lui, il existe depuis une centaine d'années. Mais c'est des salons qui ont vraiment révélé des artistes qui ont été très connus et qui ont traversé l'histoire. Donc, la possibilité de rentrer dans ces réseaux-là, c'est aussi de toucher un réseau parisien et français, national, d'artistes qui sont hyper actifs, finalement, et qui vont être aptes à rassembler, justement, des gens qui ont vraiment cette fibre-là. Les salons, moi je les fais en France depuis 3 ans à peu près, ça m'a apporté pas mal de reconnaissance. J'avais eu la mention au Grand Palais il y a 3 ans, donc c'était le Grand Palais éphémère à l'époque, qui était fermé, le Grand Palais. Et puis suite à ça, j'ai pu participer à l'association franco-chinoise d'échange d'art pour la galerie Barlier, c'était dans le 7e, où là j'ai eu le prix d'or sur l'œuvre qui s'appelle Neo Tokyo, qu'on a réalisé avec Pierre Reforma et du coup Loud. Il y avait Coco aussi, Corentin Sanon. Donc, c'est des artistes du territoire à qui je me suis associé pour pouvoir faire des grandes fresques. Et finalement, je leur ai permis, au travers de mes voyages, d'exposer en France. Donc, ce qui était inimaginable quand on avait réalisé les œuvres. Et je pense que ce qui est important, c'est autant le lieu que l'histoire du lieu, l'histoire du salon. Art Capital, comme elle l'a dit Charlotte Mollet, ça rassemble 4 salons. Donc, il y a plus de 2000 exposants. Le salon d'automne, on était à peu près 1000 exposants. Je crois que pour le Salon des Beaux-Arts, c'est encore plus restreint.
Oui, mais je ne sais pas le nombre exact.
Ouais, mais c'est quand même important de se confronter aussi à ce que les autres font et d'avoir en tête que y a une marge de progression, qu'il y a des artistes qui sont hyper confirmés et finalement de pouvoir aussi les rencontrer, c'est hyper enrichissant. Enfin, c'est ce que j'ai préféré, quoi.
Cubi, vous êtes déplacé aussi en fin d'année dernière, oui. En fin 2024. Alors c'était une année forcément particulière pour tout le monde et pour les artistes en particulier. Vous êtes aussi allé montrer vos œuvres.
Oui, c'était exceptionnel. Je suis parti à Los Angeles l'année dernière sur le festival Meeting of Style, qui est un festival de graffiti qui existe depuis 1997, qui est pareil une très très grande notoriété avec de très grands artistes. Et pareil, c'est vraiment le plaisir de pouvoir partager avec des artistes qui ont différents styles, différents niveaux, qui vraiment nous boostent et ça, c'est très inspirant. On est aussi retourné donc sur le même festival Meeting of Style à Brisbane au mois de mai avec Reyes et Manioc. C'était vraiment vraiment cool. On a fait une fresque qui représentait bien la Calédonie. On a vraiment essayé de mettre la touche culturelle à notre fresque. Ça a beaucoup plu, on a fait beaucoup de contacts avec des artistes et c'était vraiment génial. C'est une petite famille, le milieu du graffiti, donc c'est toujours cool de rencontrer ces, ses frères et ses sœurs à l'étranger, quoi.
Donc on a bien compris, Genre Rêve reste dans le lagon, vous essayez de sortir du lagon pour aller montrer vos œuvres et rencontrer des artistes, c'est ça l'objectif?
Moins maintenant, je pense que là je suis pas encore vieux, mais j'arrive à un âge où j'ai plus envie de profiter de ma famille, j'ai plus envie de faire des toiles à la maison et puis de les envoyer à des galeries à l'étranger. J'ai moins la bougeotte et j'ai plus envie de me poser avec ma chérie, nos enfants, et puis voilà, chiller, rester en Calédonie.
Mais déjà, faire voyager son œuvre, c'est déjà une façon de voyager.
Bien sûr, c'est déjà génial. Et puis là, j'ai plus envie de partager des... À la rigueur, partir sur un festival et puis profiter pour partir tous en famille. Parce qu'au final, si on part 3 semaines, comme quand j'allais à Montréal, par exemple, c'est que 2 jours de festival et il y a 3 semaines de vacances, donc c'est plus dans tout ça, quoi. Après, il y a plein de projets qui arrivent. Là, j'ai une expo itinérante l'année prochaine. J'ai été lauréat d'un appel à projet de la province sud, que je remercie beaucoup. J'ai été aidé aussi par la MAC. Donc, j'aurai 3 dates. On va commencer à poster ça doucement sur les réseaux. On va organiser des after-work le jeudi au shop, le Color Shop, qui est en centre-ville de Nouméa. Donc, on essaye de refaire un peu toute la communication et puis de reparler à nos gens qui nous suivent directement comme on l'a toujours fait, quoi.
Alors c'est vrai que peut-être qu'il y a eu des difficultés l'année dernière, on l'évoquait assez rapidement, peut-être que la commande publique aussi est moins grande, on parlait d'appel à projet de la province sud, les clients en CI qui ont peut-être moins d'argent, c'est là où il y a des possibilités peut-être de reproduction. Comment vous avez vu vos vies changer, peut-être vos modèles économiques aussi évoluer liés à ce contexte particulier du territoire où l'art passe peut-être au second plan quand on a des priorités
Alors, il y a eu, pour ma part, plusieurs étapes, je pense. On avait notre galerie à domicile à la Baie des Citrons, donc on pouvait quand même accueillir des artistes et leur permettre de faire des ventes sur lesquelles on prenait quasiment pas de commission. Pour ma part, en fait, on n'a jamais aussi bien travaillé que depuis les émeutes, puisqu'il y a eu énormément de départs. Et tous ces départs, avec tous les artistes avec qui on imprimait en fait, des reproductions, ont fait que les gens avaient besoin de souvenirs à emporter. Donc on a vraiment eu un effet pop en août dernier où on a pu passer une des plus grosses commandes de l'entreprise au niveau de notre fournisseur. Parce que du coup, nous, on importe les produits vierges et on les personnalise à la demande avec l'entreprise 22 bis. Et du coup, par la suite, cette année, on a perçu énormément d'aides de la part de la province sud avec les aides de ProSud, les crédits Crédit Sud en fait. Et on a une 20aine d'artistes qui ont utilisé leur Crédit Sud avec nous, ce qui nous a permis de nous relancer. Par rapport à cette offre, on leur a proposé 15% de réduction sur nos tarifs habituels s'ils utilisaient leur crédit avec nous, pour également en parallèle pouvoir les aider, mais de notre part, à relancer leur stock. Et après, en parallèle, comme il y a eu beaucoup de gendarmes qui sont arrivés et beaucoup de forces de l'ordre, ils avaient également besoin de souvenirs à emporter en France. Et finalement, nous, on vient de passer en société là, il y a un mois, et on a dépassé le chiffre d'affaires de la patente, donc... On n'a pas connu la crise depuis les émeutes, même si on a eu quand même quasiment 2 mois sans travail entre l'insurrection et après le temps que tout se remette un petit peu en ordre, le 24 septembre, tout ça. Donc en cumulé sur les dernières, on a perdu peut-être 3 mois de chiffre d'affaires, mais techniquement, ça ne nous a pas empêché cette année, comme on a perçu des aides, d'acheter des nouvelles machines. Donc j'en ai une qui est arrivée en mars et là j'en ai 2 qui arrivent pour Noël. Et finalement, nous, on a sécurisé la partie production, puisque la demande augmentait. Et après, il y a plusieurs façons de voir les choses. Il y a les gens qui ont moins d'argent pour acheter des originaux, mais quand même, il y en a encore certains. Et puis rendre l'art accessible, je pense que c'est ce qui fait vivre un artiste. Donc, quand bien même demain, moi ou Charlotte, on aurait une cote en France, ou même pour Cubi, moi, j'aime bien quand même continuer à faire des œuvres qui ne sont pas forcément trop grandes et accessibles. Et puis éventuellement de pouvoir permettre de les faire en repro si la personne est d'accord. L'Aquarium des Lagons m'a acheté la reproduction d'une fresque en taille réelle que du coup j'ai pu refaire et réencadrer. Donc il y a pas mal de choses. Après c'est vrai que les galeries c'est plus compliqué parce qu'il faut effectivement louer les murs, ils prennent une commission sur les ventes. Il y a tout un business model en fait qui est peut-être un peu compliqué aujourd'hui.
Qui est unique en Calédonie.
Ouais.
À savoir, il est vraiment unique. Il n'y a pas vraiment de marché de l'art, donc
voilà,
c'est un peu
ça.
Freestyle quoi, à ce niveau-là. C'est du unique coup, en Calédonie, ça n'existe
pas. Je pense que les appels d'offres, comme avec la province sud, ou justement le plus institutionnel, permet aussi de donner pas mal de travail à l'artiste pour faire des originaux et le pousser plus dans ce sens-là. C'est vrai que moi, avec l'imprimante, je me suis un peu perdu peut-être sur la reproduction, mais j'ai continué à dessiner, alors moins qu'avant. Et...
Ça va revenir.
Ça va revenir.
Côté souvenir, effectivement, avoir une belle photo du lagon sur de la soie, je suppose que ça marche bien aussi pour vous en ce moment.
Alors, je suis passé aussi par l'année 2024. En gros, pour être concret et pragmatique, le chiffre d'affaires, je m'attendais à 50% de perte de chiffre d'affaires et je suis à 30%
D'accord.
de perte. Depuis que j'ai commencé, j'ai démissionné en 2018. Toutes les années, c'était que de la croissance. Donc, ça se passait vraiment, vraiment bien. Et voilà, donc l'année 2024 a été un peu exceptionnelle. Et après, je me suis juste dit, il faut réduire la voilure, donc réduire les dépenses. Et en même temps, ma stratégie, mais c'était déjà là, comme ça depuis 5 ans. Je n'ai pas augmenté les prix des foulards en soie depuis 5 ans. Et en disant, de toute façon, les gens, même sans parler de ce qui s'est passé, les salaires, ils n'augmentent quasiment plus. Les prix augmentent, donc les gens ont moins de pouvoir d'achat. Donc le fait de pas avoir augmenté les prix, et je cherche du coup des fournisseurs aussi qui n'augmentent pas les prix autant que possible.
Là, il y a un message qui est passé.
Non, mais on fonctionne très bien à ce niveau-là parce qu'on est très clair. Donc ça a été réduire. Et aussi, j'ai fait une chose différente. Alors j'ai pris un peu les choses à l'envers. Je me suis dit, les gens ont moins de pouvoir d'achat. Et maintenant, quand on vient à ma boutique aux Portes de Fer, j'ai une ligne toute l'année en promo avec des foulards en soie à moins 20%. Ça veut dire que les gens qui gagnent moins peuvent trouver même moins cher que... Après, c'est sûr que ça a été une onde de choc. Ça a été une onde de choc, je pense, personnelle déjà, parce que dans les quartiers, il y a eu des choses quand même assez difficiles. Hein, donc, une insatisfaction, des insultes. Moi, je me suis même remis en cause en me disant, mais qu'est-ce que je fais ? Je me sentais comme si on voulait me sortir d'ici. Et moi, je n'ai pas l'habitude de m'imposer. Donc, à un moment donné, je me suis même dit, je vais retourner vivre en France. Parce que, en entendant des insultes... Et puis, au bout de quelques jours, je me suis dit, mais c'est pas possible. De toute façon, je suis trop amoureux d'ici, donc je partirai pour revenir. Et voilà, donc je dirais qu'il y a une onde de choc pour l'inspiration aussi. Ça n'a pas été évident. Et donc, on a essayé de mettre du positif, comme on fait d'habitude. On faisait des karaokés, mettre des choses positives. Et puis, au niveau de la création, je pense que ça a été une remise en cause aussi de dire, maintenant, j'ai fait, par exemple, j'ai travaillé avec Caroline de Groiselle pour dire, je fais de la photographie. Mais j'aimerais bien apprendre à peindre. Mmh. Et donc, elle m'a appris et elle expose. Donc, elle m'a appris, mais de façon remarquable. Et j'ai un tableau que j'ai fait. Du coup, c'est du sous-marin que j'ai mis à ma boutique et que les gens voulaient acheter, mais il n'était pas à vendre. Donc, par exemple, dans ma dernière collection, j'ai mis un imprimé de ce tableau pour faire les choses différentes. Et puis, je suis passé des poissons et le lagon... Eh ben, je suis passé aux oiseaux et aux papillons aussi, en plus. Donc, je dirais qu'à chaque fois qu'on nous donne un petit peu un coup de pied dans la fourmilière, le tout, c'est d'être positif et de rebondir. Puis après, et voilà, Dieu sait, on est artiste, hein, l'inspiration, elle ne vient pas tout le temps. Des fois, on l'attend, elle n'est pas là, mais... Voilà.
On avait d'ailleurs consacré une émission au cours que donne Caroline de Groiselle, une émission citoyenne, il y a quelques mois de cela. J'ai vu Cubi hocher la tête au moment de parler de l'inspiration, des émeutes. On sait que vous avez été touché directement avec votre shop qui a été détruit pendant ces émeutes. Ça a mis un coup d'arrêt à votre créativité. Ça a été difficile de se relancer. Et aujourd'hui, dans quel état d'esprit vous êtes après un an et demi après cela ?
En toute humilité, je me connais très bien et j'ai vécu des choses bien plus graves dans ma vie. Donc je me relève de tout, j'ai une très grande résilience, je pars toujours du principe qu'il y a pire que nous. À l'heure actuelle, même il y a des gens en Calédonie qui ne mangent toujours pas leur faim, en Calédonie et ailleurs dans le monde. Donc j'ai essayé d'être le moins plaintif possible, vous dire que je n'ai pas eu un gros moment de mou à me dire « bon, ça y est, c'est fini ». Mais je me suis rappelé que le phénix renaissait de ses cendres et que le feu, ça ne détruit pas toujours. C'est quelque chose qui peut construire. Et j'ai vu la lumière dedans et ma magasin a brûlé le 14 mai. J'ai ouvert un shop le 18 juin. Donc on s'est plutôt vite relevé. Après, est-ce que ça a été difficile financièrement ? Oui, mais vu que ça n'a jamais été mon air de guerre depuis le début. Demain, si je devais retourner dans un travail alimentaire, ça ne m'empêcherait pas de faire du graphe, du tatouage et de la peinture. Ça fait partie de moi. Donc vu que ce n'est pas mon but premier à la base... C'est cool, c'est pas grave. Bah, on réduit la voile et puis pain pâté, sardines, sarro. Et voilà, on essaye de s'adapter. Mais bien sûr que c'est super inspirant parce qu'on va puiser au fond de nous. On va puiser au fond de nous, on se rend compte d'une force mentale qu'on ne pensait pas avoir. On se rend compte d'amis et d'amour qu'on a autour de nous, qu'on ne pensait pas avoir. J'ai été énormément soutenu par les Calédoniens, énormément. J'ai un ami en France qui a fait une cagnotte. Il y a beaucoup, beaucoup de gens. J'ai eu énormément de messages de soutien. Je passais mes journées, parce qu'à savoir qu'il n'y a personne qui gère mes réseaux, c'est moi qui réponds à tous mes messages. Quand on commence à avoir 12 000 personnes sur Facebook, vous imaginez le nombre de messages qu'on peut recevoir dans un cas comme ça. J'avais des centaines de messages par jour. Je restais en pyjama toute la journée à répondre à chaque personne parce que j'y tenais. Et j'ai reçu vraiment beaucoup, 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 beaucoup d'amour et beaucoup de soutien. Donc ça a été un mal pour un bien.
Alors justement, puisque les réseaux ont été évoqués et qu'il est déjà 12h35, on va finir par un petit peu de promo quand même pour savoir où on peut vous retrouver, si on veut voir vos œuvres, si on veut les acheter, si on veut commenter, si on veut vous soutenir. Comment ça se passe? On fait un petit tour de table? Maxime Rouault peut-être?
Moi j'ai ma page Facebook 22bis. Notre imprimerie elle est située à Païta dans l'Azico en face de l'usine Sweetie. J'ai mon showroom qui est là-bas sur place. On sera présent dans les jardins de Wilton pour le marché Laser Art Pacifique le 6-7 décembre. Et a priori, j'ai reçu un mail pour exposer du 18 décembre au 28 décembre à la galerie du Dombea Mall. Donc du coup, comme je vais être papa aujourd'hui, a priori. Parce que je vais filer à la maternité.
Bon, on a pu faire toute l'émission avec vous.
Je ne serai peut-être pas présent au Dombea Mall, mais ce sera notre commercial Julie Fréchin qui sera présent éventuellement à ma place. Donc, à part ça, je compte peut-être réouvrir une boutique l'année prochaine sur les baies, comme on avait l'année dernière. Et puis, voilà, ça nous laissera le temps de recevoir nos nouvelles machines entre-temps.
Eh bien, on pourra vous retrouver, Charlotte Mollet. Merci. Hormis ces expositions à Paris, on peut vous retrouver localement ou sur Internet
Oui, les deux. On peut retrouver une partie de mon travail, donc les reproductions voilà, et petits autres produits dérivés, à la boutique partagée. Aux Arts du Pacifique aussi, donc boutique partagée route de Lanzvata, et les Arts du Pacifique au complexe du Hilton sur la promenade, également chez Chaoba, voilà, plus petite sélection mais quand même un peu chez Chaoba, surtout dédiée à l'univers de la femme, et ensuite sur mon site internet, voilà, charlottemollet.com,
tout simplement.
Et pour ceux et celles qui sont en région parisienne, ma foi, au mois de décembre, l'entrée du salon est libre et gratuite. Voilà.
Eh bien, l'appel est lancé, venez. Du côté de Porte de Fer aussi, c'est ça?
Oui, alors j'ai une boutique aux Portes de Fer. C'est une boutique qui ouvre en fin d'après-midi à coller à ma maison. Il suffit de regarder sur Internet, vous trouverez le numéro de téléphone. Mais sinon, pareil, aux Arts du Pacifique, j'ai les petites décorations sous-marines. Et après, à Chaoba, aussi à côté du parc Brunelet, les foulards de soie, on les trouve. Aux Découvertes de Fabie, au Quartier Latin aussi. Et si on n'a pas eu le temps, qu'on est dans l'avion et puis que ça a été trop vite, on n'a pas pu faire, ils sont même en duty-free sur Air Calin. Il y a un incroyable modèle écharpe et un modèle étole.
Bon, bah super. Le spot de pub est facturé, hein, par contre, hein, je vous le dis. En centre-ville, Cubi?
Cubi Color sur les réseaux, KUBYKOLOR, sur même site internet, etc. Et juste à taper sur Google, on trouve absolument tout. 33 rue Jean Jaurès, au centre-ville de Nouméa, pour la boutique, le Color Shop. Et à partir de février, on va lancer des after-work tous les jeudis, où j'avancerai sur les toiles en live que je vais présenter l'année prochaine sur toutes les expos itinérantes. Et puis, on espère encore reproduire plein de belles fresques et de beaux murs colorés en Nouvelle-Calédonie.
Bon, on aura l'occasion d'en reparler. Merci à tous les quatre d'avoir été avec nous ce
midi. Merci à vous.
Pour ce magazine citoyen que vous pourrez retrouver d'ailleurs en podcast sur notre site internet, le www.rrb.nc. Il est midi passé de 39 minutes. On va enchaîner avec le Café Gourmand sur Radio Rythme Bleu. Le prochain point d'actualité, ce sera à 13h avec le Flash.
Le magazine citoyen avec la province Sud, une province citoyenne.
La province Sud, agir pour l'avenir.